Volume présente La Reine Margot, tomes 1 et 2 de Alexandre Dumas, lu par Loïc Richard. Chapitre 1er, le latin de Monsieur de Guise. Le lundi, 18e jour du mois d'août 1572, il y avait grande fête au Louvre. Les fenêtres de la vieille demeure royale, ordinairement si sombre, étaient ardemment éclairés. Les places et les rues attenantes, habituellement si solitaires, dès que 9h sonnait à Saint-Germain-l'Auxerrois, étaient, quoiqu'il fût minuit, encombrées de populaire. Tout ce concours menaçant, pressé, bruyant, ressemblait dans l'obscurité à une mer sombre et houleuse dont chaque flot faisait une vague grondante. Cette mer, épandue sur le quai, où elle se dégorgeait par la rue des Fossés Saint-Germain et par la rue de l'Astruce, venait battre de son flux le pied des murs du Louvre et de son reflux la base de l'hôtel de Bourbon qui s'élevait en face. Il y avait, malgré la fête royale, et même peut-être à cause de la fête royale, quelque chose de menaçant dans ce peuple, car il ne se doutait pas que cette solennité, à laquelle il assistait comme spectateur, n'était que le prélude d'une autre remise à huitaine et à laquelle il serait convié et s'ébattrait de tout son cœur. La cour célébrait les noces de Madame Marguerite de Valois, fille du roi Henri II et sœur du roi Charles IX, avec Henri de Bourbon, roi de Navarre. En effet, le matin même, le cardinal de Bourbon avait uni les deux époux avec le cérémonial usité pour les noces des filles de France, sur un théâtre dressé à la porte de Notre-Dame. Ce mariage avait étonné tout le monde et avait fort donné à songer à quelques-uns qui voyaient plus clair que les autres. On comprenait peu le rapprochement de deux partis aussi haineux que l'était à cette heure le parti protestant et le parti catholique. On se demandait comment le jeune prince de Condé pardonnerait au duc d'Anjou, frère du roi, la mort de son père assassiné à Jarnac par Montesquieu. On se demandait comment le jeune duc de Guise pardonnerait à l'amiral de Coligny la mort du sien assassiné à Orléans par Poltrot du Méret. Il y a plus. Jeanne de Navarre, la courageuse épouse du faible Antoine de Bourbon, qui avait amené son fils Henri aux royales fiançailles qui l'attendaient, était morte il y avait 2 mois à peine, et de singuliers bruits s'étaient répandus sur cette mort subite. Partout, on disait tout bas, et en quelques lieux tout haut, qu'un secret terrible avait été surpris par elle, et que Catherine de Médicis, craignant la révélation de ce secret, l'avait empoisonné avec des gants de senteur qui avaient été confectionnés par un nommé René, Florentin fort habile dans ces sortes de matières. Ce bruit s'était d'autant plus répandu et confirmé qu'après la mort de cette grande reine, sur la demande de son fils, 2 médecins, desquels était le fameux Ambroise Paré, avaient été autorisés à ouvrir et à étudier le corps, mais non le cerveau. Or, comme c'était par l'odorat qu'avait été empoisonnée Jeanne de Navarre, c'était le cerveau, seule partie du corps exclue de l'autopsie, qui devait offrir les traces du crime. Nous disons crime, car personne ne doutait qu'un crime n'eût été commis. Ce n'était pas tout. Le roi Charles, particulièrement, avait mis à ce mariage, qui non seulement rétablissait la paix dans son royaume, mais encore attirait à Paris les principaux huguenots de France, une persistance qui ressemblait à de l'entêtement. Comme les deux fiancés appartenaient l'un à la religion catholique, l'autre à la religion réformée, on avait été obligé de s'adresser pour la dispense à Grégoire XIII, qui tenait alors le siège de Rome. La dispense tardait, et ce retard inquiétait fort la feue reine de Navarre. Elle avait un jour exprimé à Charles IX ses craintes que cette dispense n'arrivât point, ce à quoi le roi avait répondu « N'ayez souci, ma bonne tante, je vous honore plus que le pape, et aime plus ma sœur que je ne le crains. Je ne suis pas huguenot, mais je ne suis pas sot non plus, et si monsieur le pape fait trop la bête, je prendrai moi-même Margot par la main et je l'amènerai épouser votre fils en plein prêche. » Ces paroles s'étaient répandues du Louvre dans la ville, et tout en réjouissant fort les huguenots, avaient considérablement donné à penser aux catholiques, qui se demandaient tout bas si le roi les trahissait réellement, ou bien ne jouait pas quelque comédie qui aurait un beau matin ou un beau soir son dénouement inattendu. C'était vis-à-vis de l'amiral de Coligny, surtout, qui depuis 5 ou 6 ans faisait une guerre acharnée au roi, que la conduite de Charles IX paraissait inexplicable. Après avoir mis sa tête à prix à 150 000 écus d'or, le roi ne jurait plus que